Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote.
France Info.
Israël assure donc aux États-Unis son opération à Rafah est limitée. Dixit, la Maison-Blanche en tout cas, Benjamin Netanyahou a répété dans une déclaration cet après-midi depuis son bureau son double objectif dans cette guerre, le retour des otages et l'élimination du Hamas.
Israël ne permettra pas au Hamas de rétablir sa domination maléfique sur la bande de Gaza. Israël ne lui permettra pas de rétablir ses capacités militaires pour continuer à œuvrer à notre destruction. Israël ne peut accepter une proposition qui met en danger la sécurité de nos concitoyens et l'avenir de notre pays. C'est pourquoi j'ai donné pour instruction aux négociateurs qui se sont rendus au Caire de continuer à se montrer fermes sur les conditions nécessaires à la libération de nos otages ainsi que sur les conditions essentielles à la garantie de la sécurité d'Israël.
Bonsoir Hassani Abidi.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Merci d'être notre expert sur ce qui se passe en ce moment à Rafah. Opération limitée à Rafah, dit le Premier ministre israélien, mais des chars y sont déployés et l'armée israélienne a pris le contrôle de cette partie palestinienne du poste frontière vers l'Égypte. Comment vous qualifiez-vous cette opération en cours à Rafah ?
Cette opération, d'abord, c'est une entorse à une convention, à un accord de paix très important, celui avec Israël, mais aussi c'est pas la première fois où les chars israéliens arrivent à ce territoire qui est normalement protégé par un accord depuis 2010. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, Israël contrôle le seul accès aujourd'hui disponible pour Gaza avec le monde extérieur, avec un nombre très important de malades qui ont besoin parfois de soins à l'étranger, mais aussi militaires. Sur le plan stratégique, évidemment, Israël veut montrer sa capacité à occuper ce qu'on appelle l'axe Philadelphie. L'accord, d'ailleurs, porte l'accord de Philadelphie. C'est un axe qui sépare Rafah côté palestinien, de côté égyptien. Et généralement, cet axe est contrôlé du côté palestinien par les Palestiniens et de l'autre côté par l'Égyptien. Aujourd'hui, Israël prend possession de cet accès. Dernier élément, c'est que finalement, c'est très difficile de concilier des négociations, surtout celles qui débutent aujourd'hui au Caire, avec l'occupation de postes de Rafah ou la continuation de ces opérations qui ont visé, c'est vrai, que deux quartiers importants. Maintenant, l'objectif affiché par Benjamin Netanyahou, c'est la libération des otages, le retour des otages, qui est, à mon avis, un objectif légitime. Sauf que nous avons sur la table une acceptation d'un accord, certes avec qui a besoin de certains amendements, mais qui offre aux Israéliens, avec la garantie américaine, le retour graduel de tous les à la maison. Donc finalement, est-ce que finalement Benjamin Netanyahou dit vrai ? Est-ce qu'il vise vraiment le retour des otages avec une opération militaire ayant des conséquences terribles sur les terres, mais on n'est pas certain vraiment que cette opération va conduire à la libération des otages.
Vous dites certains amendements, les Américains disent qu'il reste certaines lacunes. Est-ce qu'on peut essayer de préciser ce qui manque pour obtenir cet accord ? C'est toujours cette notion de cessez-le-feu permanent qu'ont voulu glisser dans l'accord, si on peut dire, les membres du Hamas, les négociateurs du Hamas, et qui évidemment gênent les Israéliens, c'est ça ?
D'abord, il faut clarifier un élément important. L'offre qui a été acceptée par le Hamas, elle n'est pas son œuvre. Le Hamas a évidemment proposé des articles. Il faut rappeler aussi que les Israéliens n'ont pas envoyé de délégation à Doha. Ce sont les Américains qui ont négocié en présence de William Burns, le chef de la CIA. Donc les États-Unis étaient consultés d'une manière permanente sur cette mouture qui a été proposée par le Hamas. Ça, c'est le premier élément. Les Égyptiens et les Qataris ont amendé cette proposition qui, à la base, vient de Washington, mais aussi les Israéliens ont préparé. C'est souvent le cas dans des négociations. C'est-à-dire on essaie de répondre finalement aux exigences de toutes les parties. Il y a quelques points importants. On a bien vu le discours de M. Benjamin Netanyahu, où il va plus loin. Maintenant, il parle de la comment peut-on s'assurer que le Hamas ne contrôle plus Gaza, donc ce qu'on appelle le jour d'après. Alors que cette question n'a jamais fait l'objet, finalement, des négociations. Les négociations ont toujours porté pour objectif une trêve contre libération d'otages. Mmh. Ça, c'était toujours été l'objectif. Il y a ce mot sur l'accalmie durable. L'accalmie durable vient plutôt de négociateurs israéliens et qui a été, après moult négociations, accepté par les Palestiniens, par le Hamas, qui voulait plutôt un cessez-le-feu durable, un cessez-le-feu permanent. Ce cessez-le-feu n'arrivera pas que dans la deuxième phase ou la troisième phase, selon la mouture. Ça, c'est important. Et aussi le retrait des forces israéliennes, le Hamas, au début, voulait absolument un retrait total, un désengagement total des forces israéliennes. Dans la proposition d'hier, acceptée par le Hamas, mais aussi acceptée par les Américains, puisque les Américains sont les garants de cet accord, le Hamas a accepté un retrait graduel, puisque nous avons trois phases, et chaque phase est liée à la première, c'est-à-dire il n'y aura pas d'avancement dans la deuxième si la première n'a pas donné ses objectifs. Ouais. Par exemple, la libération de 33 otages israéliens. Les Israéliens veulent absolument que ce soit d'abord l'identité claire, 33 plutôt vivants et pas une partie des autres morts. Donc je dirais que ce sont des amendements qui ne touchent pas le fond de négociation, qui est une trêve humanitaire et pas encore ce cessez-le-feu, il viendra plus tard. Et le retour d'une partie des otages.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Pressonné là pour les échos, Antoine Maret pour France Culture, Cédric Clairin pour l'Humanité Magazine et Asni Abidi avec une question pour vous, Asni Abidi, d'Elsa Fressonnet des échos.
Oui, est-ce que vous pensez que les deux parties, à savoir le Hamas et le gouvernement israélien, ont au fond envie de conclure un accord ou pas?
Écoutez, le Hamas hier a donné son accord et il est sous une pression très importante de la part de l'Égyptien et du médiateur qatari. Les Qataris sont dans une pression inédite à tel point qu'ils réexaminent leur médiation. Ils sont crédibles à mon avis et ils savent très bien que sans accord de la part du Hamas, les Américains vont leur demander de fermer le bureau du Hamas. Et puisque ce bureau a plutôt il est fonctionnel, il est ouvert pour une fonction négocier avec le Hamas et d'arriver à un accord. Donc ça, c'est une pression. Et le Hamas, d'ailleurs, c'est pourquoi vous avez remarqué, au retour à Doha, le chef du Hamas a téléphoné à l'émir du Qatar pour cet accord. Donc ils ont intérêt. En plus, il y a une fatigue. Et il veut offrir une sortie aux Gazaouis qui sont épuisés. Et le dernier élément important, c'est que le Hamas a aujourd'hui une scène terrible. C'est Gaza ressemble à un champ de ruines. S'il tient à avoir un avenir politique avec le Fatah ou avec l'OLP ou sous une autre direction, etc., il a intérêt à accepter l'offre. Puis ça va lui garantir finalement un avenir politique. Sinon, Israël a montré sa capacité à occuper entièrement le territoire, donc la bande de Gaza. En revanche, pour Israël, je ne suis pas certain. Je dirais même qu'il y a une division. Et je crois qu'aujourd'hui, le président Biden est dans une situation embarrassante parce que l'administration Biden a accompagné les négociations, l'accord cadre Paris 1, Paris 2, et aussi à Doha et bien sûr au Caire. Et donc, elle a donné son feu vert à cette mouture. Aujourd'hui, Benjamin Netanyahu ne veut pas l'accepter ou veulent l'amender. Mm. C'est une situation inconfortable. On sait qu'une partie, en tout cas, M. Benjamin Netanyahu est probablement extrémiste, veut plutôt la continuation de cette guerre, l'anéantissement total du Hamas, et on sait que cet objectif est très difficile, la libération aussi des otages. Je dirais plutôt le Hamas tient à sa survie politique et aussi Benjamin Netanyahu tient aussi à sa survie politique, mais chacun emploie une méthode différente.
C'est clair. Question d'Antoine Marette de France Culture.
Oui, je voulais vous faire réagir à cette phrase du porte-parole du gouvernement israélien aujourd'hui. La seule fin possible, c'est que le Hamas dépose les armes et rende les otages. Le Hamas au pouvoir n'est pas une option pour Israël. Là, en quelque sorte, il referme la porte à tout accord possible. Est-ce qu'il n'y a pas une part de bluff, c'est-à-dire faire monter les enchères pour un accord plus favorable à Israël, ou c'est un non définitif?
C'est très difficile. Je comprends l'allégeance israélienne, mais il est très difficile quand vous avez un partenaire en face, donc de négocier pour son départ définitif, de négocier sur sa mort. Aujourd'hui, le Hamas, les Américains négocient de manière indirecte avec le Hamas, les Israéliens aussi. Et la question même du jour d'après, l'Égypte n'a jamais apprécié le Hamas. Il est considéré comme une organisation terroriste. Pourtant, c'est les services de renseignement égyptiens qui négocient avec le Hamas. Et personne ne veut parler de cette Gaza le jour d'après, parce que cette question politique, elle est encore plus compliquée que la question d'une trêve humanitaire contre la libération d'otages. Mais moi, je pense que l'avenir, en tout cas, si on arrive à une trêve humanitaire, le Hamas est obligé à trouver une autre formule pour sa survie politique, c'est-à-dire l'abandon définitif de l'action militaire, se dissoudre probablement dans une autre entité beaucoup plus importante. Et certains voix à l'intérieur du Hamas disent qu'il faut maintenant songer finalement à une participation politique et accepter donc une autorité palestinienne revisitée. Ça, c'est une. Mais c'est reste la musique d'avenir, parce que aujourd'hui nous avons une urgence, c'est celle de la trêve humanitaire et le retour des otages.
Hassani Abidi, je reviens au blocage du poste frontière par les Israéliens. Qu'espèrent-ils les Israéliens dans cette affaire ? Est-ce que vous souscrivez à ceux qui disent c'est une façon pour eux de faire le tri parmi les humanitaires ? Le résultat, quand même, c'est ce que disent les agences de l'ONU, c'est que ça a pratiquement sevré l'enclave palestinienne d'aide extérieure.
C'est toujours considéré pour Benjamin Netanyahu comme une victoire. Et il cherche ces trophées avec les brigades d'Al-Qassam, le bras armé du Hamas, mais il n'a pas réussi jusqu'à ce jour. Et donc, voir les chars israéliens contrôler un poste frontalier qui a toujours dépendu de l'autorité du Hamas, c'est comme une percée. Et Benjamin Netanyahu a besoin de ça. Il pense qu'évidemment, avec ce contrôle de Rafah, de poste de Rafah, de poste de passage, il va exercer une pression sur les négociations en cours. Le risque, c'est qu'on peut revenir finalement au premier carré et que le Hamas aussi va sentir un petit peu brusqué ou finalement pas contraint à entrer en matière dans les négociations. La pression, elle a été déjà exercée et elle a donné des résultats qui certes ne sont pas donc au même niveau demandé par les Israéliens, mais moi je pense qu'il y a des progrès, et notamment la question de désengagement partiel et aussi l'abandon d'un cessez-le-feu permanent tout de suite lors de la première phase. Et il faut revenir et à mon avis insister sur cette gradualité dans cet accord. Les Égyptiens l'ont bien négocié, ils ont une grande expérience. C'est que finalement cet accord il est évolutif. On peut construire à partir de cet accord et arriver à un accord plus acceptable, disons, par toutes les parties.
Mais juste sur ce point humanitaire, ça veut dire qu'Israël assume d'affamer toute cette population. C'est ça le sens de ma question.
On est d'accord.
Avec tous les risques que ça comporte.
Si l'autre poste, donc, c'est-à-dire le point de passage Karam Abou Salem, reste fermé, puisqu'elle a été fermée depuis 2 jours, après... après un incident, mais qui n'est pas lié à ce point de passage, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'existe aucun point de passage ouvert. Ça veut dire que la situation humanitaire va s'aggraver. La famine va augmenter après quelques améliorations timides au niveau plutôt médical, puisqu'on a maintenant quelques unités mobiles, des unités médicales mobiles qui remplacent les hôpitaux qui sont hors état de service. Et donc ça, c'est vrai, c'est une question humanitaire. Et évidemment, contrôler le point de Rafah, le point de passage de Rafah, c'est augmenter les souffrances des Gazaouis.
Merci beaucoup Hassani Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Vous êtes aussi chargé de cours d'ailleurs à l'Université de Genève. Merci pour tous ces éclairages. Je voudrais qu'on dise un mot, Antoine Maret, alors je vois que Gabriel Attal s'exprime, on sera au meeting de la mutualité dans un instant, mais cet après-midi à l'Assemblée, il est revenu sur les conséquences de ce conflit en France, et c'est un sujet qui est évidemment... récurrent, il en a parlé aussi hier soir, en évoquant les actes antisémites.
Oui, il a évoqué cet après-midi les je cite, indignation sélective, donc qui sont ceux qui sont sans voix face au Hamas et à ses exactions, et ceux qui sont contre Israël. Il a clairement nommé également hier l'islamisme, ainsi que la France insoumise. Et là, on est dans une situation un peu compliquée, parce que la crainte en France, c'est qu'il y ait une exportation du conflit à la fois dans le débat politique, c'est déjà le cas, notamment avec la France insoumise, et puis également dans les universités, les grandes écoles.
Cédric Clairin, sur ces prises de position, et on verra tout à l'heure, Paul Barcelone nous dira ce qu'il en est sur le discours pour les Européennes, évidemment, mais du Premier ministre sur ces questions, sur son implication sur ce sujet-là.
Il y a en effet un discours politique très fort, parce qu'on parlait de silence sur les allégations du Hamas. Bon, c'était il y a 7 mois. Tout le monde s'est à peu près exprimé là-dessus. Donc, c'est plus vraiment le débat. Donc, il y a quand même une espèce de focalisation de cette... La France insoumise, on peut reprocher beaucoup de choses, mais ils ont dénoncé les allégations du Hamas et ils le font dans toutes les interviews. Donc il y a aussi de l'instrumentalisation politique.
Ils l'ont fait tardivement, mais une partie le font en tout cas, oui.
Sans parler de terrorisme.
Si, ils le font. Oui, mais ils parlent de crimes de guerre. Enfin, ils argumentent comme ils veulent, mais bon, ben, voilà, moi, je ne pense pas qu'il y ait une ambiguïté aussi importante que ce qui agite le débat depuis 6 mois.
Chez tous les insoumis, pour vous.
Par contre,
il y a zéro ambiguïté chez tous les insoumis.
Il y a juste ce truc entre terrorisme et crimes de guerre, et effectivement, c'est un débat sans fin sur terrorisme.
Mouvement de résistance aussi, Daniel Obono.
C'est pareil, à force de le répéter, il faut se souvenir, Daniel Obono a dit qu'il se considérait comme un mouvement de résistance. Elle n'a pas dit qu'elle les considérait. On peut dire, voilà, donc c'est... bref, donc je pense que le débat n'est pas là, il se focalise là-dessus, et Gabriel Attal est d'autant plus fort là-dessus que la réponse diplomatique est très très faible sur Rafah. Il y a 2 mois, le président Macron s'exprimait dans l'Humanité pour dire que Rafah, pour lui, était un point de rupture. Là, on a les États-Unis qui sont autour de la table, qui réussissent à arracher un accord, qui donnent des garanties, etc., pour avoir un accord, donc ils s'impliquent plus qu'ils ne l'ont jamais fait depuis 7 mois. La France se dit... préoccupé par la situation à Rafah. C'est très, très faible diplomatiquement, alors qu'il y a une semaine ou deux, c'était peut-être qu'on va déclarer, qu'on va reconnaître l'État de Palestine, etc. Là, on est très faible. Donc on est d'autant plus fort sur le débat intérieur, qu'on participe à faire mousser, d'ailleurs, qu'on est faible sur la réalité internationale.